Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre magazine Micro Rebelle Hebdo, que vous pouvez écouter chaque semaine en direct hein, en vous connectant sur notre site micro-rebelle.fr, soit directement sur le site, soit au travers de l'appli, hein, l'appli de la Franf. Toutes les indications techniques sont sur notre page sur micro-rebelle.fr. Alors Micro-Rebelle, c'est la radio des alternatives hein, sociales, politiques, économiques, écologiques dans le bassin minier et au-delà. Et on va s'efforcer aujourd'hui de vous présenter différents reportages de cette nature. Je suis avec Aurélie. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Alors la semaine dernière, on a eu une assemblée générale à Micro-Rebelle. Et Aurélie a décidé de s'investir dans la commission communication, hein, c'est bien ça Aurélie ?
Exactement, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Micro-Rebelle et aussi sur notre site internet, très important.
Alors effectivement, Aurélie a commencé à faire un gros nettoyage de nos relations réseaux sociaux. Je pense que l'idée c'est qu'on soit plus visible, c'est ça en quelque sorte ?
Oui, en quelque sorte.
Eh bien, on va apprécier tout ça petit à petit. Donc, au sommaire de ce numéro de Micro-Rebelle Hebdo, je précise d'abord que nous attendons d'une minute à l'autre, et un peu de retard, notre ami Jonathan. Donc, on lui donnera la parole tout à l'heure. Au sommaire, notre agenda social et culturel dans le bassin minier et la région. Les actualités, hein, au travers de nos coupures de presse diverses et variées. Et puis, des reportages. Hein, on va se permettre un petit reportage sur les manifs de la semaine hein, contre les retraites. Vous allez avoir un reportage peut-être un petit peu décalé et iconoclaste. Reportage également, un extrait de reportage sur l'Assemblée Générale qui s'est tenue dans le bassin minier interprofessionnel, Assemblée de lutte hein, qui prépare les initiatives de la semaine à venir. Et puis un reportage quand même assez significatif sur la Syrie. On en reparlera tout à l'heure. Tout ça entrecoupé, comme toujours, sur Micro-Rebelle de musique libre. Eh bien écoutez, sans attendre, on va se brancher sur notre agenda social et culturel. Et je pense que c'est toi Aurélie qui démarre.
Exactement. On se retrouve le samedi 1er février pour la Foire aux Installs. Donc la Foire aux Installs, c'est quoi ? C'est l'occasion d'installer des logiciels libres et d'échanger avec beaucoup de monde. Ça se déroulera de 14h à 18h au LAG, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Et on vous y attend nombreux !
Alors toujours le samedi 1er février, un peu plus loin, ça se passe à Lille, à la médiathèque du Vieux-Lille. De Lille à Barcelone, comprendre la gentrification pour mieux la combattre. Il s'agit d'un atelier discussion qui est mené par Antonio Delfini, qui est membre de la maison d'édition Les Étacs et qui est co-auteur de l'ouvrage Contre Euralil. Participeront également à cet atelier Javier Jurado, qui est anthropologue et ater en histoire de l'Espagne à l'Université de Lille. Alors l'atelier d'histoire et de géographie critique vous invite à une après-midi d'analyse comparée des politiques urbaines dans une métropole du Nord et une métropole du Sud de l'Europe, donc Lille et Barcelone. Dans les deux cas, le même leitmotiv, être attractif. Faire de la ville une matrice économique compétitive à l'échelle européenne. Se servir de la culture ou des JO, ou de la culture faute d'avoir obtenu les JO, comme d'un levier pour façonner l'image d'une ville dynamique, compétitive, conquérante et surtout ouverte aux tertiaires marchands. Revers de la médaille, ou conséquence assumée, Lille et Barcelone voient leurs loyers exploser. Les quartiers populaires se trouvent peu à peu colonisés par les pépinières d'entreprises, les centres commerciaux ostentatoires et les appartements Airbnb. Partout, c'est la même architecture de béton froid qui s'impose et qui grignote la ville. C'est l'ensemble de ces mécanismes constitutifs d'une véritable chasse aux pauvres que nos intervenants tenteront de démonter à partir des trajectoires propres de chacune de ces deux métropoles. C'est donc ce samedi 1er février à la médiathèque du Vieux-Lille, 25-27 place de Bétigny, à 15h.
Toujours le samedi 1er février, aura lieu une rencontre et discussion avec Éric Louis, cofondateur de l'association Cordistes en colère, Cordistes solidaires, en partant de la présentation de son dernier livre, Chronique sur corde. Dans un secteur où une large partie des ouvriers et ouvrières sont intérimaires, difficile de se rencontrer et de tisser des complicités pouvant permettre de se défendre collectivement. D'autant que la multiplicité des couches nous séparant de nos patrons semble volontairement destinée à empêcher tout conflit direct. Donc cette rencontre aura lieu à l'Anamorphose, 48 rue du Long Pot, à Lille-Fives, le samedi 1er février dès 16h.
Alors on passe au mardi 4 février, une soirée solidaire contre l'extrême droite. Il s'agit d'une réunion publique à Grenay, à la salle des fêtes, un place Daniel Breton, à 18h. Dans le cadre de son engagement contre les idées d'extrême droite, Solidaires Pas-de-Calais organise avec le VISA, alors le VISA c'est Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste, donc Solidaires Pas-de-Calais, organise avec le VISA une réunion publique débat. Lors de ce débat syndical, ils accueillent des camarades travaillant dans des mairies tenues par l'extrême droite. Donc je rappelle, mardi 4 février, salle des fêtes, Grenay, 18h.
Toujours le mardi 4 février, on se retrouve cette fois-ci pour une réunion publique autour de l'idée d'une coopérative alimentaire autogérée. Qu'est-ce qu'une coopérative alimentaire autogérée ? C'est tout d'abord acheter en circuit court et ainsi court-circuiter la grande distribution. C'est aussi faire quelque chose de carrément écolo et anticapitaliste, de mettre du social pour une économie conviviale. Cela va de pair avec l'idée de réapprendre l'autogestion au sein d'un fonctionnement horizontal, s'approvisionner autrement et aussi manger plus sainement. On vous donnera d'autres bonnes raisons pour vous convaincre que ce projet vaut le coup, mais pour cela, on vous attend. Vous, vos idées et votre énergie à cette réunion à 19h à la salle des Sœurs d'Elmer, 2 rue de la 12e à Arras. N'hésitez pas à ramener de quoi grignoter, sous le modèle d'une auberge espagnole. On vous y attend.
Alors je crois d'ailleurs que notre ami Luc, que j'excuse ce soir, est investi dans cette coopérative alimentaire autogérée. On passe au lendemain, le mercredi 5 février. Alors si je vous dis RCL... Eh bien non, RCL, là, ça signifie Référendum Citoyen Lensois. C'est une initiative de l'intersyndicale, l'inter-pro sur le bassin minier. Ça se passera ce mercredi 5 février entre 17h et 20h devant la gare de Lens. Donc ce Référendum Citoyen Lensois, il s'agit d'interpeller les passants, celles et ceux qui sortent de la gare. Et on leur demande de s'exprimer un petit peu sur la situation actuelle. Et notamment, au choix, on dit non, c'est un carton rouge à l'austérité universelle. Ou bien on dit oui, c'est un carton jaune à la retraite à 65, 66, 67 ans. Donc n'hésitez pas à venir les rejoindre ce mercredi 5 février entre 17h et 20h devant la gare de Lens.
Le mercredi 5 février, on se retrouve pour un ciné-sandwich à l'espace Ronnie Cooter de Grenay à 19h. Au programme, un documentaire, Les prisonniers politiques, suivi d'un échange avec Pierre Carles, réalisateur en 2000 du film Ni vieux, ni traître. On vous y attend.
Alors, on reste le mardi 5 février, mais ça se passe du mardi 5 février au vendredi 7 février. C'est une annonce culturelle, c'est la pièce de théâtre « Enfant ». C'est une adaptation très libre du conte Hansel et Gretel pour dénoncer les violences engendrées par la précarisation du monde du travail. C'est à la Comédie de Béthune, donc les trois soirs, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7, à 20h. Les prix s'échelonnent entre 5 et 20 euros. On peut se renseigner ou réserver au 03 21 63 29 00.
Le jeudi 6 février, on se retrouve pour une nouvelle journée interprofessionnelle de grève et de manifestation à l'occasion du début des travaux de la commission spéciale de l'Assemblée nationale.
Alors ce même jour, hein, mais plus en soirée, le jeudi 6 février donc, Ensemble pour le climat, c'est une réunion ouverte du collectif de Lens-les-Vins, donc sur le bassin minier. Ça se passe entre 18h30 et 20h30, c'est au LAG, le lieu autogéré, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Une réunion ouverte du collectif, mais une réunion ouverte à toutes et à tous.
Toujours le jeudi 6 février aura lieu un débat sur les violences policières à partir de 18h30 à la Bourse du Travail de Lille, métro FIV, en présence de David Dufresne, journaliste spécialiste du maintien de l'ordre, auteur du roman « Dernière sommation » aux éditions Grasset, publié en 2019. Il y aura aussi Fabien Jobard, directeur de recherche CNRS, sociologue spécialiste de la police, auteur avec Jérémy Gauthier du livre « Police, questions sensibles ». Et enfin, il y aura aussi Yann B., membre du collectif Désarmons-les et de l'Assemblée des blessés, auteur du documentaire « À nos corps défendants ».
Le lendemain, le vendredi 7 février, comprendre la réforme des retraites. Hein, donc c'est une initiative hein, dans le cadre d'un cycle d'éducation populaire, une initiative organisée par Paul Masson. C'est le vendredi après-midi hein, de 14h à 17h. Moment de formation, moment d'information ouvert à toutes et à tous hein, concernant cette réforme des retraites. C'est à la maison de service Jean Jaurès, avenue Jean Jaurès à Arras.
Le vendredi 7 février aura lieu aussi une pièce de théâtre à la salle Louis-Aragon à l'espace Jean Ferrat à Avion à 20h30, prix compris entre 4 et 6 euros. Voici le synopsis très intéressant de cette pièce. Leïla, 17 ans, apprend que son petit ami s'apprêtait à commettre une action terroriste. Elle n'avait rien soupçonné et se dit qu'elle ne pourrait jamais être manipulée. Sa sœur relève le défi dans l'anonymat d'Internet et Leïla plonge sans questionnement dans la cause imaginée par sa sœur. Renseignements et réservations au 03 21 79 44 89.
On passe maintenant au samedi 8 février, la possibilité du fascisme. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de l'initiative qui se tenait à Grenay, une initiative du syndicat Sud Solidaire en liaison avec Visa, une initiative syndicale contre le fascisme. Eh bien là, c'est une initiative de votre radio préférée, Micro Rebelle. C'est une émission radiophonique publique. Nous invitons Hugo Paglietta, qui est un sociologue et qui a écrit ce livre « La possibilité du fascisme » avec comme sous-titre « France, la trajectoire du désastre ». Alors particulièrement dans le bassin minier, l'extrême droite réalise des scores inégalés à toutes les élections. Parallèlement à ce constat électoral, on peut dresser une énumération de faits. Typiquement, migrants laissés pour mort à Calais. Large diffusion de thèses réactionnaires, xénophobes et islamophobes. Quadrillage répressif des quartiers populaires. Manifestations interdites et criminalisées. Violences policières impunies, etc., etc. Cette énumération dit le pourrissement actuel de la politique et le fascisme qui fait son retour sous des formes embryonnaires et disparates. C'est dans ce contexte que Micro-Rebelle vous propose d'assister à l'enregistrement public d'un échange avec Hugo Paglietta autour de son dernier ouvrage « La possibilité du fascisme ». Une bonne occasion d'échanger avec Hugo Paglietta et entre nous autour de quelques questions qui nous concernent toutes et tous dans le bassin minier et au-delà. Rendez-vous donc samedi 8 février dans les locaux de Micro-Rebelle à Lens, hein, maison des jeunes, Buisson, rue Léon Blum. L'enregistrement débute à 15h précise. Nous vous suggérons d'arriver un petit peu avant, car nous fermerons les portes du studio quelques minutes avant 15h. A très bientôt sur ce sujet, donc très important.
Enfin, on se retrouve toujours le samedi 8 février pour une soirée alimentation et bien-être, une manière de bien finir la journée. À l'initiative de l'AMAP du bassin minier, une auberge espagnole clôturera la soirée de manière conviviale et ça se déroulera comme chaque mois au LAG, 23 avenue Jean Jaurès, de 19h à 22h. Venez nombreux.
Alors voilà, donc cet agenda social, culturel est terminé. Petit retour maintenant sur l'actualité de la semaine écoulée, un retour très bref, hein, de ce que nous avons noté hein, comme actualité qui nous ont semblé importante. Alors tout d'abord, dans l'actualité internationale, nous avons noté le coup de force unilatéral des États-Unis pour une paix israélo-palestinienne, on peut mettre des guillemets. La proposition de Trump, c'est que les colonies israéliennes installées en Palestine occupée soient annexées et reliées à Israël par des routes sous contrôle militaire. Ensuite, Israël annexerait la plus grande partie de la vallée du Jourdain. En échange, on construirait un tunnel reliant Gaza à la Cisjordanie. Enfin, Jérusalem deviendrait, toujours avec des guillemets, la capitale indivisible d'Israël. Alors bien sûr, l'annonce de ce plan a un caractère électoral, à la fois pour Trump, qui lorgne du côté du public évangélique pour assurer sa réélection, et également pour Netanyahou, menacé par la justice pour corruption et détournement de fonds, et dont le salut passe par sa réélection le 2 mars. Ceci étant, au-delà de ces tripatouillages électoraux, l'annonce de ce plan s'inscrit dans la validation de la poursuite des projets d'annexion en Cisjordanie. Alors, il est évidemment extrêmement regrettable qu'il n'y ait aucune protestation de la communauté internationale. Par exemple, la France se contente de saluer les efforts de Trump en direction de la paix. C'est un peu court. Alors, dans l'actualité française, justement, c'est toujours le conflit contre la réforme des retraites que nous retenons. Vous trouverez sur microrebelle.fr plusieurs reportages cette semaine. Par exemple, à l'occasion de la manifestation locale à Arras, on en parlera tout à l'heure, ou lors de l'Assemblée générale interprofessionnelle du bassin minier. Alors évidemment, le gouvernement veut faire adopter sa réforme à marche forcée et au pas cadencé. De nombreux travailleuses et travailleurs ont repris le travail, mais le mouvement continue à l'occasion des temps forts, des grèves et des manifestations. On en a parlé notamment dans notre agenda tout à l'heure. Alors on peut noter effectivement la semaine prochaine, Aurélie en a parlé le 6 février, encore un temps fort, et à Lens le 5 février, initiative RCL, référendum citoyen lensois. Le rejet de la réforme et plus généralement la colère sont intacts. La politique gouvernementale se lit de plus en plus comme un livre ouvert, comme une forte proportion, pour une forte proportion de la population. Elle se lit comme une politique en faveur des couches favorisées, en faveur des riches, en faveur des entreprises du CAC 40, au détriment des services publics et des travailleuses et travailleurs. Quelle que soit l'issue de ce conflit social, avec dans les transports une des grèves les plus importantes de ces dernières années, cette colère n'est pas près de s'éteindre. Voilà, je crois que toi aussi Aurélie, de ton côté, tu as peut-être une chronique à nous présenter.
Exactement. Être ou ne pas être français ? Telle est la question, chers auditeurs. L'immigration a toujours été un sujet important en France, si bien que cela frise même à l'obsession. Et je pense que vous l'avez remarqué. Un article de Politis cette semaine s'est attaché à déconstruire les clichés sur l'immigration. On voit alors que, contrairement à ce qu'on entend souvent, non, l'immigration n'a jamais été un facteur déterminant dans le solde budgétaire français, du moins pas durant ces 30 dernières années. Eh oui, chers auditeurs, la France est aussi le pays qui accueille le moins d'immigrants. Nous sommes à 2 points dans l'Hexagone, contre 8 en Espagne, 6 au Royaume-Uni et 3 en Allemagne. Le souci reste qu'en France, lorsque les gens parlent des personnes immigrées, ils n'englobent pas seulement les nouveaux arrivants, mais toute la population qui, à leur sens, n'est pas française. Je suis sûre que, comme moi, vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Il faut qu'ils retournent dans leur pays !» Mais attendez... Leur pays n'est pas la France, celui dont la famille est ici depuis 2, 3, voire 4 générations, voire plus, n'est pas chez lui. Ah, retourner dans son pays d'origine, où il n'a peut-être jamais mis les pieds. Parce que la France n'est pas un pays composé uniquement de blancs, avec un nom de famille typiquement français. Eh oui, chers auditeurs, nous n'avons pas tous la chance d'être blancs, de s'appeler Dupont, et de n'avoir que des origines de la noblesse française. La France est cosmopolite, et pour beaucoup, c'est encore dur à avaler. On ne stigmatise pas autant les personnes handicapées. Enfin, on n'oserait même pas le faire. Pourtant, les immigrés, après tout, on peut se le permettre. C'est la nature profondément raciste de la France qui refait surface. Les stéréotypes datant de 20 ans sont toujours là, et ils sont toujours les mêmes. J'ai parfois l'impression que d'avoir un oncle raciste est une chose normale. Et stigmatiser les musulmans ? Normal. Leur dire de faire un effort pour s'intégrer. Oh, mais encore normal. Mais s'intégrer à quoi, au juste? À une société profondément raciste qui fait justement semblant de ne pas l'être? Telle est la question, chers auditeurs.
Pause musicale maintenant sur microrebelle.fr. J'ai oublié de signaler tout à l'heure en introduction que nous étions effectivement rediffusés par nos amis de Radio PFM, hein, 99.9 à Arras, tous les vendredis soirs à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Merci à cette station fraternelle. Pause musicale donc, musique libre, hein, comme toujours sur Micro Rebelle. C'est le groupe Meta, un groupe latino, hein, ils sont du Brésil. Une chanteuse, un saxo, une guitare. Ce morceau, c'est Cobra Rastera.
Thank you. web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Oui, nous sommes toujours dans le cadre de notre émission Micro-Rebelle Hebdo sur micro-rebelle.fr, disponible directement sur notre site internet ou via l'appli de la Franf et rediffusé par nos amis de Radio PFM. Reportage maintenant, un reportage assez fort, hein, d'Araya, la bibliothèque sous les bombes. C'était lors du dernier Ciné Sandwich, hein, à l'espace Ronny Couture de Grenay. Projection du film d'Araya, la bibliothèque sous les bombes. Un documentaire co-réalisé par Bruno Joucla et Delphine Minoui qui retrace l'histoire d'amis, aujourd'hui exilés, qui ont construit une bibliothèque pendant le siège de Daraya en Syrie. Donc Daraya, sous les bombes, c'est l'enfer, hein, c'est le feu. La projection s'est faite en présence du principal protagoniste du film, Shadi Matar, que nous avons interviewé. Traduction par Hassan Seala, un reportage de Luc. C'est tout de suite à venir.
Pendant la guerre en Syrie, Shadi Matar prend photos et vidéos des bombardements meurtriers sur sa ville de Daraya. Delphine Minoui, journaliste et correspondante de presse à Istanbul, tombe sur ces images et entame alors une correspondance avec Shadi. De cette correspondance et de leur rencontre naîtra un livre, Les passeurs de livres de Daraya, qui raconte l'histoire d'une bande d'amis qui, dans une ville dévastée par les bombes, récolteront les livres dans les décombres pour constituer une bibliothèque. Une bibliothèque pour apprendre, débattre, se forger une pensée dans un contexte d'extrémisme idéologique, mais aussi pour célébrer des mariages et des funérailles. Finalement contraint à l'exil, Shadi rejoindra Delphine à Istanbul. Ils poursuivront alors leur collaboration, de laquelle naîtra un film, Daraya, la bibliothèque sous les bombes, réalisé avec Bruno Joucla. Lors d'un récent ciné sandwich organisé à l'espace Ronny Couture de Grenay, était projeté le documentaire, en présence du principal protagoniste du film, Shadi Matar.
Je suis Shadi Matar du film Daraya, la bibliothèque sous les bombes. Pendant la révolution syrienne, le gouvernement, ils ont commencé en fait de bombarder les villes syriennes. Une de ces villes, en fait, elle était bombardée pendant cette guerre, c'est la ville Daraya. Certains jeunes, en fait, de la ville, on a commencé en fait de filmer ce bombardement. Et moi, j'ai commencé en fait de filmer le bombardement de la ville, le désastre de la guerre et tout ça, mais surtout j'étais focalisé sur les visages de gens, l'impact de ces bombardements sur les visages de gens. Certains de jeunes, en fait, pendant 7 ans en fait, de guerre, ils ont commencé en fait, de collecter tous les livres dans les bâtiments qui étaient détruits par les bombes. Et j'étais un de ces jeunes, en fait, de recruter ces livres. Surtout, le but, c'était, en fait, de réserver ces livres et de les mettre en sécurité pour être utile, en fait, pour les gens, même dans cette période, en fait, de guerre. Ces livres, vraiment, ils ont servi, en fait, le mode de communication entre les peuples, en fait, de Daraya. Parce qu'on était coupé en fait de tout le monde entier, tout le mode de communication, télé, internet, tout ça. Et pour ça, ce livre, il a servi vraiment qu'on soit communiqué entre nous. Ce livre, en fait, il a servi les jeunesses et les peuples syriens de se protéger contre le mouvement idéologique qui vient de l'extérieur. Ces films, en fait, étaient réalisés au moment de l'accord entre le gouvernement et les rebelles syriens. Tous les peuples de Daraya, ils ont parti dans le nord de Syrie. Et suite à ça, je suis parti en Turquie et j'ai rencontré Delphine. La première communication avec Delphine, c'était le 2015, suite de photos en fait, Delphine l'a vu sur internet, il a pris de contact avec moi. De photos sur des villes, il était bombardé, on était dans la bibliothèque et ces photos vraiment elles étaient le rôle important en fait de rencontre avec Delphine. Du coup Delphine elle a pris en fait de contact avec nous parce qu'il était intéressé en fait par l'histoire de cette photo et il voulait réaliser en fait de reportages suite à cette photo. Et cette histoire aussi il voulait vraiment en fait de faire une histoire ou un livre sur cette ville Daria avec et c'était le moyen en fait où on était toujours en communication avec elle par l'internet, les mails et aussi la WhatsApp. Au sud en fait je suis parti de Syrie jusqu'en Turquie et j'ai rencontré Delphine. On a commencé en fait de écrire le livre avec elle et on est sud en fait et les moussorger quelque chose, on doit quand même faire un film en fait. Et surtout en fait de décrire, montrer tout le monde et le monde entier comment tous les Syriens en fait ils vivent la guerre. Et comment ces jeunes et ces jeunesses en fait, les peuples de Daria, ils ont récolté les livres.
Quelle est l'idée ou le message principal qu'a essayé de transmettre ce film ?
En fait, pendant 50 ans, le peuple syrien était gouverné par Bachar et Hafez al-Assad. Tous ces peuples, ces jeunes, en fait, ils étaient nés dans cette période en fait, de dictature. Le gouvernement en fait, de Hafez al-Assad en fait, et Bachar al-Assad, ils ont essayé de réprimer le peuple pendant toutes ces périodes. En fait, l'opposant, c'était opposant normal d'opinion, mais on le suit en fait, ça générait de révolutions par les armes. Aussi, pendant cette révolution, en fait, il y a des mouvements extrémistes qui ont intervenu, mais ils ont quand même produit une image très mauvaise de cette révolution. Surtout, en fait, il faut comprendre, en fait, d'ailleurs, cet mouvement extrémiste, en fait, il était venu, en fait, par les aides du gouvernement de Bachar et de montrer l'aspect extrémiste de la révolution. Surtout de montrer en fait il n'y a pas de réclamation en fait de démocratie, de liberté, tout ça. Bachar il a amené de dire en fait tout le monde entier, ces peuples ne réclament pas la démocratie, juste des idées extrémistes. Et surtout il a réussi avec ce travail en fait de montrer cette révolution, c'est vraiment révolution de guerre, c'est pas révolution pour la démocratie. Et surtout avec les idées d'Aïch, tout ça, il montrait vraiment des images différentes de la révolution. C'est pas les réclamations de peuple, c'est d'autres images qui étaient montrées au monde entier. Et surtout de dire aussi les gouvernements, ils étaient en guerre avec des terroristes. Dans ce film, en fait, le message était voulu en fait d'envoyer et de montrer cette révolution. C'est pas les Syriens, c'est pas que de Daesh et de terroristes, mais il y a d'histoire derrière. En Syrie, il y a deux peuples. Ils réclament surtout dans leur maison bombardée la paix, la démocratie et les libertés. Aussi, le but de ce film, en fait, de montrer en Syrie, les peuples étaient ces deux gens normaux. Ils étaient là, en fait, de vivre, essayer, en fait, d'avoir de vie normale comme tout le monde dans le monde entier, sans rentrer dans des idées extrémistes ou terroristes. Et surtout, cette idée, en fait, d'extrémistes et terroristes, c'était des idées de détruire les Syriens, c'est pas de construire les Syriens.
Au début du film, la question est posée, à quoi ça sert de sauver des livres si on n'arrive pas à sauver des vies ? Avec le recul, comment il répond à cette question ?
En fait, ce livre, vraiment pendant cette guerre, il a servi quelque chose de très important. Construire une idéologie très solide contre les idées extrémistes et terroristes qui viennent de l'extérieur. Surtout, de ne pas oublier cette guerre, en fait, c'était aussi de guerre d'idéologie, en fait. Beaucoup des idéologies extrémistes, beaucoup des idées terroristes, ils étaient venus au même moment avec beaucoup de mouvements du monde entier. En Syrie, en fait, c'était terre de guerre idéologique. Et ce livre, vraiment, il a servi, en fait, le peuple d'Aria, en fait, de distinguer, en fait, les mal et les bien, et de choisir les idées modérées qu'ils réclament de la paix. Aussi de donner, en fait, un peu d'espoir, en fait, qu'est-ce qu'on peut construire pour l'avenir, en fait, comme de parti politique ou quelque chose comme ça. Aussi de réfléchir, en fait, est-ce que les Syriens, qu'est-ce qu'il va devenir de l'État laïque, l'État islamiste ou quelque chose comme ça. Ça servait vraiment de débat. Le contenu de tout ce livre, en fait, c'était des idées, en fait, il vient du monde entier, en fait, c'était de culture extérieure, de culture différente, divers, mais de laisser quand même de Syriens, en fait, de choisir parmi ces livres, en fait, qu'est-ce que ce sera mieux pour les Syriens.
Il y a une scène du film qui est assez marquante, c'est quand vous vous retrouvez entre amis, les personnes qui avaient aidé à construire cette bibliothèque, et en fait, vous constatez que c'est un échec, parce qu'il faut partir de la ville, le gouvernement donne 48 heures pour quitter la ville d'Araya. Comment, avec le recul, tu vois cet échec ?
خلال الفيلم انا بكون عم بقول انه نحن طالعين اليوم من داريا ومو مصدق انه
Pendant ce film, en fait, il y a une scène, j'ai essayé, en fait, de montrer, c'était la scène, en fait, de sortie derrière. J'ai essayé de montrer, c'était impossible, en fait, de croire et de dire, après 4 ans, ça y est, on quitte nos villes, on va immigrer et laisser tout et partir. Parce que je croyais jamais en... Je vais quitter Daria vivant. Et surtout, j'ai imaginé en fait, auparavant, on peut trouver des solutions et rester sans quitter et migrer. Tout, je croyais, c'était pas ça en fait. On a quitté Daria. Surtout, il y a beaucoup de souvenirs et de nostalgie. De laisser derrière nous, de souvenirs très difficiles et de souvenirs très très beaux, mais malgré tout, on était obligés de quitter tout.
Ils ne se révolteront pas avant d'avoir pris conscience et ils ne prendront pas conscience avant de se révolter. Cette phrase du 1984 de George Orwell résume l'histoire de ses amis exilés, séparés par la guerre, transfigurés par cette expérience, construire une bibliothèque pendant le siège de Daraya, ville à proximité de Damas en Syrie. Vous avez donc entendu ici Shadi Matar, protagoniste du film Daraya, une bibliothèque sous les bombes, réalisé par Bruno Joukla et Delphine Minoui. Merci à Hassan Silla pour la traduction.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Voilà, c'était Daraya, la bibliothèque sous les bombes, hein, lors du dernier ciné-sandwich de l'espace Ronnie Cooter à Grenay. Un reportage de Luc. On va continuer par vous présenter un autre reportage, hein, cette fois-ci sur l'actualité en France, hein, le conflit social autour des retraites. Hein, Mais entre-temps, notre ami Jonathan nous a rejoint. Jonathan, bonjour.
Bonsoir, vu l'heure, j'étais perdu un petit peu dans les bouchons entre Lille et Lens.
Voilà, donc effectivement, hein, cette émission est enregistrée le vendredi entre 18h et 19h. Mais justement, Jonathan, à propos de conflit social sur ton campus, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se présente?
Alors, sur mon campus, donc du coup, ça fait déjà 3 semaines que les professeurs de sciences politiques et d'enjeux sociaux, notamment, font grève. Il y a un atelier grève qui est ouvert toute la journée. Et donc, du coup, ils se mobilisent en faisant montrer, par exemple, des violences policières, l'égalité homme-femme au travail. Bref, beaucoup de choses qui montrent un petit peu les côtés négatifs de la réforme des retraites à points. Et récemment, du coup, il y a quelques jours, qu'il y a les étudiants, du moins dans ma promo, qui commencent à se mobiliser. Lundi, après notre cours de droit constitutionnel, on aura une sorte de petit AG pour se voir et parler un petit peu de la réforme des retraites. Et plus tard dans la journée, on va essayer de se regrouper avec les licences sciences politiques de L2 et de L3 pour pouvoir se mobiliser contre la réforme des retraites.
Eh bien Jonathan, on compte sur toi pour prendre un enregistreur et puis revenir nous voir avec un reportage à ce sujet. Eh bien, on va faire un petit retour en arrière hein, cette semaine à la manif du 29 janvier à Arras. Alors, il faut bien l'avouer, l'heure n'était pas spécialement à l'optimisme. Hein, il n'y avait pas beaucoup de monde. Pour autant, il ne faudrait pas que cette petite mobilisation annonce la mort du mouvement social. Alors donc notre ami Luc, hein, c'est encore lui qui avait son enregistreur dans cette manifestation, il s'est risqué à interroger les passants et les passantes sur leur vision de la réforme et sur le mouvement de contestation. On va écouter ce reportage tout de suite.
Je m'appelle Noémie, je suis lycéenne. Je trouve ça pas très utile parce que, étant donné qu'ils sont pas très nombreux non plus. Et en plus, nous, on aimerait bien prendre les transports en commun et ils gâchent la voie à cause de ça. Alors, on a des rendez-vous, des choses à faire et on peut même pas y aller parce qu'ils sont à peine, je sais pas moi, une centaine. Et ils sont pas vraiment très. Je sais pas comment dire, mais. Ils sont. Enfin, c'est inutile quoi, c'est pas.
Voilà. Qu'est-ce qui te paraît inutile? Le fait de manifester contre la réforme, c'est-à-dire de contester le projet de réforme la forme de manifestation?
Non, je trouve ça quand même utile de manifester en soi, mais là, ils sont pas, je veux dire, ils sont pas énormes, et puis, je pense pas que ça va changer quelque chose, puisque l'État, il s'en fiche, ils font rien malgré les nombreuses manifestations, donc je ne pense pas que ça va changer quelque chose. Mais après, ils sont libres de manifester, hein, c'est un droit de manifestation, donc après, s'ils ont envie de faire ça, libre à chacun de faire ce qu'il veut, quoi.
Tu t'es intéressé un peu au projet de réforme? Comment tu le comprends? Qu'est-ce que t'en penses?
Personnellement, moi, ma retraite, c'est dans très longtemps. Donc, il y aura plusieurs régimes qui auront changé. Donc, moi, personnellement, je m'y intéresse pas forcément puisque je suis encore jeune. Mais pourquoi pas? Moi, il y a encore beaucoup de régimes qui vont changer. Donc, pour l'instant, ça me concerne pas vraiment, quoi.
J'imagine que dans le cortège que tu critiques, il y en a qui répondraient qu'en fait ils se battent, ils manifestent pour la collectivité, pour l'intérêt collectif, pour les acquis sociaux et pour des droits.
Ouais, après je comprends totalement, hein, c'est leur droit, ils font encore ce qu'ils veulent. Moi c'est juste que ça me gêne pour prendre mon bus, quoi, c'est tout. Après ils manifestent parce qu'ils sont pas contents, je comprends, la réforme c'est clairement... Désolé de dire ça, c'est de la merde, donc je comprends un petit peu, mais c'est juste que là, j'aimerais bien prendre le bus et rentrer, quoi. Voilà, désolé, je suis un petit peu égoïste aujourd'hui, c'est juste que je viens de passer un examen et que j'aimerais juste rentrer pour me reposer, voilà.
C'est quoi, c'est les E3C?
Exactement.
Comment ça se passe dans ton lycée? Parce qu'il y a aussi des contestations de la réforme du bac et des premières épreuves de 3C, ça se passe comment?
Alors c'est très 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 mal organisé vraiment, mais après on sait quand même que c'est notre bac et qu'il faut quand même... Nous on révise tout ça, mais vraiment le système est très mal organisé.
Je suis retraitée, voilà, mais je trouve que là ils poussent le bouchon un petit peu trop loin, ça va trop loin.
Le gouvernement ou les manifestants?
Non, les manifestants. Voilà, il y a des choses à défendre, ça c'est certain, mais je pense qu'il y a aussi d'autres moyens et que là, ça pénalise beaucoup trop les usagers et que les usagers, bah, ils en ont marre, quoi. Surtout qu'au départ, c'est pour certaines catégories professionnelles et ça laisse de côté d'autres catégories professionnelles qui, eux, auraient besoin d'être davantage soutenues et défendues, quoi. C'est pas très bien géré, à mon avis. Voilà, ça embête en fait ceux qui croient aider. En fait, ils embêtent les utilisateurs et les utilisateurs en ont marre, donc ça risque de se retourner contre eux, quoi. Moi, je suis pas directement concernée, mais bon, j'ai des enfants, j'ai des amis. Enfin, il y a des gens qui travaillent et ça gêne énormément le travail des autres. Voilà, et je crois. Je ne fais pas de parti pris politique en ce qui me concerne, simplement je constate, quoi.
Voilà. Vous êtes pour ou contre cette réforme des retraites ?
Partiellement. Je pense qu'il faut effectivement réformer les retraites si on voit un peu plus loin et qu'on voit la densité de population, enfin les conséquences, mais je pense que notre président a pris des mesures qui ne sont pas toujours adaptées à certaines catégories professionnelles. Donc en ce qui concerne les fonctionnaires, effectivement, je trouve qu'ils partent un peu trop tôt. Et, bon, je veux dire qu'il y a trop de décalage, donc c'est justifié. Maintenant, pour l'ensemble des retraites, il y a des choses à isoler, je trouve que au lieu de supprimer du personnel administratif, hein, puisque tout est automatisé, informatisé, etc., il y en a effectivement trop dans certains domaines, surtout dans la fonction publique où il y a beaucoup d'hierarchie, beaucoup plus que dans le privé. Moi, j'ai travaillé que essentiellement dans le privé, mais j'ai travaillé aussi en ministère. Et je trouve aussi que les catégories comme le médical, les aides-soignants, etc., sont pénalisés en même temps que d'autres, alors qu'en fait, il y a vraiment une dissociation à faire entre les fonctions, leur pénibilité, etc. Alors effectivement, il y a quelque chose qui va un peu dans ce sens-là, mais bon, c'est pas encore concrétisé, ça traîne en longueur, et puis, et c'est pas parce que il y a des syndicats qui défendent une certaine catégorie, ils essaient de rassembler le plus possible. Je pense qu'il y a aussi un racolage politique qui est fait, qui est sous-jacent. Mais bon, on n'est pas des imbéciles, monsieur, madame, tout le monde. Au bout d'un moment, faut voir les choses différemment. Moi-même, j'ai touché dans ma retraite, donc.
Vous êtes prêt à sacrifier une partie de votre retraite ? Parce qu'en fait, dans la réalité de la réforme, c'est pas une lutte sectorielle, tout le monde sera touché, même vous en tant que retraité, il y a de fortes chances pour que votre pension diminue.
C'est déjà fait. Et de ce
vous êtes prêt à sacrifier ça ?
C'est les orientations que prennent les uns et les autres, ceux qui ont du pouvoir, qui ne vont pas. Mais sinon, non, c'est déjà fait. Ma retraite est extrêmement basse. J'ai beaucoup de mal à finir les fins de mois. Je suis aidée par mes enfants. C'est-à-dire que les enfants payent deux fois, là. C'est-à-dire qu'ils payent pour la génération suivante, mais ils payent déjà aussi pour aider leurs parents. Parce que les parents sont du coup sont mis en difficulté. Pourtant, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai mes trimestres, je suis cadre sur le tard et j'ai une retraite. Bon, je suis seule aussi. Donc, j'ai pas le conjoint qui vient vers le joint. Enfin, il y a tout à voir en profondeur, j'irais même. Moi, je suis plutôt féministe, donc je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut voir. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de femmes au pouvoir et que la condition des femmes influerait beaucoup sur la condition générale du travail. Parce qu'elles sont beaucoup plus pénalisées. Bon, Macron l'a dit aussi, M. Macron l'a dit aussi à la télé, mais bon, dans les faits, il n'y a pas vraiment d'avancée. Les écarts de salaire, les carrières hachées, l'éducation des enfants, enfin, tout ça font que les femmes sont extrêmement pénalisées et même beaucoup plus pénalisées que certaines catégories professionnelles qui sont en train de défendre. Donc elles, c'est même par rapport aux hommes, c'est pas seulement par rapport à l'ensemble des salariés, c'est par rapport ou des retraités, c'est même par rapport aux femmes. Moi, j'ai beaucoup plus loin. Voilà. Donc, je me suis plus sensibilisée à la condition des femmes qu'à la condition des hommes. Déjà là, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui terminent dans la misère. Si elles n'ont pas des enfants merveilleux comme les miens, elles terminent dans la misère. Et ça, c'est inacceptable.
Une dernière question. Si je comprends bien, vous êtes plutôt contre la réforme des retraites. Vous êtes personnellement touché. Vous pensez qu'il faut lutter. vous n'adhérez pas à la manière dont sont organisées les manifestations, ouais. Et vous critiquez en quelque sorte l'organisation syndicale.
Vous avez tout résumé.
Moi, je suis Christian de l'Union locale France ouvrière d'Arras.
Comment tu vois la mobilisation d'aujourd'hui ?
Ben, la mobilisation est en train de faiblir. On ne peut que le constater, mais c'était couru d'avance, on le sait ça depuis le mois de décembre. Quand on a vu que les journées d'action commençaient à se multiplier une par semaine, on sait très bien que c'est pas comme ça qu'on va gagner, quoi. Donc là, la base, elle essaye quand même de se mobiliser, mais on ne sait plus comment se mobiliser. Alors, il y a des actions un peu bizarres, comme des actions qu'on sait qui ne servent à rien, quoi. C'est un peu l'énergie du désespoir pour moi. Les cheminots ont arrêté, la RATP ont arrêté, on les a abandonnés en fait. Il y a un problème de volonté d'en découdre avec le gouvernement, je crois. Je ne vois pas d'autre chose qu'une grève générale pour que Macron y retire son projet. Et puis la grève générale, on ne la voit pas beaucoup arriver, quoi. Au contraire, ça se tire dans le temps et puis on s'affaiblit.
Donc à ce stade de la contestation, tu es plutôt défaitiste, pessimiste ?
Je suis réaliste. À ceux qu'on dit qu'ils sont défaitistes ou pessimistes, on répond toujours qu'on est réaliste. Bah, on regarde aujourd'hui, hein. Il n'y a plus beaucoup de grévistes. Je vois pas comment ça pourrait repartir là. Mais normalement, j'ai pas le droit de dire ça, mais je le dis quand même. on y croit, ça peut rebondir, on ne sait pas trop. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Je crois que nos appareils syndicaux, les appareils, ceux qui négocient là-bas à Paris, je crois qu'ils ont quand même été bousculés, ils ont été obligés de dire retrait de la réforme. C'était pas gagné d'avance. Maintenant, on reste sur le retrait de la réforme, mais avec une journée par semaine, ça sera dur. Je vais pas être défaitiste, non. Je suis là, c'est que j'y crois, quoi.
Comme tu l'as dit, on peut être aussi là juste par l'énergie du désespoir. Et...
Bon, c'est un gros mot, c'est pas l'énergie du désespoir. Moi, j'ai connu les 95, 2003, 2008. À chaque fois, ça monte en puissance de la base. Et à chaque fois, on se heurte aux journées d'action qui s'égrènent toutes les semaines. Parce qu'il y a une volonté de ne pas vraiment décoder avec le gouvernement. Parce qu'une grève générale, c'est politique, quoi. Ça remet en cause le gouvernement Macron. Je ne sais pas si nos confédérations syndicales sont prêtes à aller jusque-là. Jusqu'à présent, je n'ai pas constaté ça, quoi. Parce que moi, je pense, je me trompe peut-être, mais je pense que si vraiment l'intersyndicale nationale voulait se débarrasser de la réforme des retraites, elle aurait pu le faire. Au lieu de parler du 9 janvier, le 9 janvier, ça a donné une trêve de 15 jours. Bon, bah, c'est justifié, c'est Noël et tout, etc. Mais bon, faut savoir ce qu'on veut. Hein. S'ils avaient remplacé le 9 janvier par le 27 décembre ou une autre date plus proche, ça aurait pu entraîner tout le monde. Tandis que là, bah, on attend. On attend la prochaine journée. Et entre deux, on ne sait pas trop quoi faire. J'entends dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, la retraite au flambeau. Bon, bah, c'est amusant, mais ça, c'est un peu stérile quand même comme action.
Tu penses que ce qui a manqué jusqu'ici, c'est en partie dû à la position des centrales syndicales ?
Je ne vais pas accuser les centrales syndicales. Elles ont très bien réagi, retrait. Ils sont toujours sur le retrait. Ils ont été très très loin là-dessus, sur le refus de la réforme. Mais elles ont été frileuses, quoi. Frileuses sur les moyens d'action, sur la dispersion. C'est comme contre la loi El Khomri. Il y a eu 14 journées d'action et puis finalement la loi El Khomri, elle est passée. Donc on le sait que 14 journées d'action, ça ne sert à rien. Mais on recommence à chaque fois. Mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit.
Tout à l'heure, j'ai interrogé des gens dans la rue qui en ont un peu marre clairement des manifestations. Souvent dans ce cas-là, on supposerait qu'ils n'ont pas bien compris les enjeux de la réforme de la retraite. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire à l'heure actuelle de réexpliquer quels sont ces enjeux-là ?
La retraite à points, c'est simple, le mot principal c'est point. Parce qu'une fois qu'on fixe la valeur du point, on peut la baisser. Donc les salariés, toute leur vie, ils vont galérer, ils vont acheter des points. Et quand ils vont partir en retraite, un an avant, on va leur dire, ah ben, ton point, on va te le racheter Là, je crois que ça a été fixé à 1,25€ ou 1€. Et la valeur du point va être calculée pour que ça dépasse jamais 14% du PIB. Donc si le PIB s'écroule, comme ils s'y attendent, puisqu'ils attendent une crise financière, ils diront il y a autant de points, 14% du PIB, ça fait autant de milliards, donc on va diminuer le point. Donc quand on entend le gouvernement qui dit « moi, le point, il baissera jamais », on ne peut pas les croire de toute façon, et de toute façon, le prochain gouvernement, lui, il n'aura rien promis, et puis il pourra baisser le point. Donc c'est une arme absolue pour ajuster les retraites à la dépense publique, c'est ça le principal. Le gouvernement, il a bien joué, parce qu'ils sont forts, hein, bien sûr. Ils ont réussi à faire croire dans la tête des gens que c'était surtout les régimes spéciaux. Donc dans les salariés qui sont au régime général, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, c'est les... ce qu'ils pensent être des privilégiés, les cheminots, la RATP, les fonctionnaires. Et ils n'ont pas compris que c'est eux qui allaient morfler aussi. Tous les salariés du privé, ils vont s'en prendre, ils ne vont pas voir d'où ça vient. Il faut penser qu'en Grèce, les retraites ont baissé 30%. On ne croit pas que ça peut arriver, mais là, le système qu'ils mettent en place, ça permettra de faire ça.
Tu disais que le gouvernement était assez efficace en communication pour montrer du doigt les régimes spéciaux et ceux qui en bénéficient. Est-ce que les syndicats là-dessus n'ont pas un peu manqué de pédagogie ou de moyens de communication qui soient à la hauteur pour défendre la vision que tu es en train de proposer?
On fait ce qu'on peut dans les syndicats. On informe, on communique, on donne des tracts. Le matin à 6h, on donne des tracts aux gens. On ne peut pas faire plus, nous. On n'a pas des heures de grande écoute à la télé où on peut vraiment expliquer l'enjeu. Quoi que ça, c'est fait quand même, si. Mais les médias, ils contrôlent tout ça. Ils ont accès sur les cheminots. Et c'est pas innocent. Pourquoi des médias donneraient tous les jours 5 minutes sur la grève des cheminots, la RATP, tout ça? Il n'y a jamais rien d'innocent. C'est qu'ils ont mis l'accent pour essayer de diviser les salariés entre eux, quoi. Nous, on n'a pas les mêmes moyens de communication, bien sûr.
Allez, au les cœurs, cette émission Micro-Rebelle Hebdo se termine. Rendez-vous à toutes et à tous à la semaine prochaine. Jonathan, Aurélie, bye bye à tout le monde et puis à très bientôt.
Bye.
Bah là, bye bye, peut-être à la prochaine, ça dépend.